Bonsoir à tous. Je m'appelle Christine. Je viens d'Alsace et j'ai pas la prétention de faire une conférence. Pas du tout. Je ne suis pas là pour ça et je n'ai pas du tout cette capacité. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est ce que j'ai fait il y a à peu près un an à sa réunion lors d'un vendredi soir. On m'a demandé, écoute, est-ce que tu voudrais bien nous donner un petit témoignage de ta vie? Je dis, tu sais, moi je trouve que j'ai une vie ordinaire, hein, rien de spécial. Il me dit, quoi, toi, une vie ordinaire? C'est pas possible. Tu es handicapé, tu vis, tu fais ça. Ah bon, si tu penses. Effectivement, j'ai dit, ok. Mais je ne savais pas dans quoi j'allais m'engager. Et c'est vrai que, en réfléchissant à ma vie, il y a beaucoup de choses qui sont revenues. Et ce que je voudrais vous partager ce soir. Donc, je vais vous emmener dans ma vie. Et donc, vous allez écouter. Peut-être ça vous intéressera ou pas. Mais voilà, c'est notre parcours. C'est d'abord mon parcours, puis notre parcours. Alors, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous citer ce verset. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vraiment tout. Parfois, on en doute, hein. Et pourtant, pour ma part, donc comme vous voyez, je suis petite, handicapée, tout ce qui s'ensuit, et vous n'en savez pas encore tout. En jetant un regard en arrière, en considérant ma vie, je me rends compte aujourd'hui que je vis sous la grâce de Dieu. Je peux vous affirmer aujourd'hui que je vis sous la grâce de Dieu. Et pourtant, je suis née, quand j'étais petite, dans une famille chrétienne, protestante. C'est-à-dire officielle, donc l'église protestante. Pourtant, cette famille aimait Dieu. Tous les dimanches, on allait à l'église. Ils étaient fidèles à Dieu dans la tradition. Mon grand-père maternel, lui, priait tous les jours pour sa famille, pour ses enfants. Il remettait ses enfants, et après ses petits-enfants, entre la main de Dieu. Et du coup, donc il remettait ça entre la main de Dieu. Un jour, il me l'a dit, et vous savez, à l'époque, on ne parlait pas beaucoup de ces choses-là. C'est des choses qui sont taboues. Mais je sais, il m'a dit, tu sais, je prie. Et ça m'a beaucoup marquée. Dans ma petite enfance, j'étais joyeuse, j'étais choyée, j'étais heureuse de grandir dans une famille aimante. J'avais trois frères qui étaient plus jeunes que moi. On s'entraînait bien, et je vivais des belles choses. Dans mon petit village à Béhières, c'est à côté de là où j'habite maintenant. Je connaissais presque tout le monde. J'étais gaie, très sociable. Je rendais visite à tout le monde dans le village. Je passais d'une maison à l'autre. Je parlais à tout le monde. Je suis née avec un grave handicap. Mais à l'époque, ça ne se voyait pas. Mes parents le savaient, mais physiquement, on ne le voyait pas. J'ai une grave déformation de la colonne vertébrale. Et donc, quand mes parents se sont rendus compte, j'étais bébé. J'étais petite. J'avais moins de force que les autres. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas envie de faire comme tout le monde. J'ai toujours suivi le troupeau de des enfants de mon village. J'allais partout. Là où ils allaient, moi aussi je voulais aller. J'ai appris à faire du vélo, j'ai monté à cheval, je suis tombée, je me suis cassée une jambe, je suis restée des mois dans le plâtre, à l'époque c'était longtemps, je suis remontée sur le cheval. Je voulais me débrouiller toute seule. Je voulais tout faire comme tout le monde. Mais parfois, il fallait demander aux autres, mes frères, mes cousins, mes amis, de fallir à faiblesse. Parfois, il fallait porter mon sac d'école. Le bus arrivait, il fallait marcher loin, loin, loin jusqu'au collège. Et je devais demander à une amie, s'il te plaît, tu peux m'aider à porter mon sac. Le lendemain, à quelqu'un, s'il te plaît, tu peux m'aider. Mais je voulais vraiment faire tout comme tout le monde. Mes parents, à l'époque, dans le village, quand vous aviez quelqu'un d'handicapé, ils auraient pu m'isoler. M'enfermer chez eux, ne pas montrer. Ça ne se montrait pas, un handicapé. J'ai appris bien plus tard que, dans la même période que moi, un garçon était aussi né handicapé. Je ne l'ai jamais connu. On ne l'a jamais vu. Mes parents, ce n'est pas ça qu'ils voulaient faire. Ils me laissaient faire ce que j'avais envie. Ils n'avaient pas honte de moi. Ils ne me surprotégeaient pas non plus. Et ils m'ont toujours considérée comme mes frères. Ils étaient punis, j'étais punie. C'était pareil, tout le monde pareil. Ma maman, elle me disait juste, t'as envie de le faire, essaye. Mais tu fais attention, Et c'est une tante. Elle ne me freinait jamais. Elle me laissait essayer. Et j'ai essayé tout ce que j'avais envie, dans la mesure de mes possibilités. Cela m'a permis d'avancer, mais parfois aussi de m'arrêter. Mon enfance a été ponctuée par beaucoup de visites, de déplacements. Et à l'époque, dans notre endroit, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes du dos. Toutes les semaines, je faisais 70 km en bus pour aller jusqu'à Strasbourg, pour aller voir le kiné, le médecin. Toutes les semaines, ma maman m'accompagnait, m'encourageait, me guidait, me raisonnait. Moi, j'étais trop contente. J'allais à la ville. Tout le monde était à la campagne. Moi, j'allais à la ville. Ça me faisait vraiment, ça me donnait une certaine importance. C'était mon activité du jeudi. À l'époque, c'était le jour où on n'avait pas classe. Et je vais faire une petite pause pour juste vous montrer quelques petites photos où on vous voit quand j'étais enfant. Là, c'est mes parents avec moi, qu'on ne voit pas. Là, c'est moi quand j'ai 1 an, avec ma maman. Comme vous voyez, ben, ça ne se voit pas trop. Hein. Là, c'est avec ma cousine. Là, on voit que j'étais déjà penchée. Là, c'est avec mon frère et une cousine. Celle qui rigole beaucoup, c'est moi. Là, c'est moi avec mes 3 frères. Là, c'est mon grand-père maternel qui priait pour nous. Là, c'est maman avec mes frères, mon grand-père derrière. Là, c'est maman avec mes 3 frères. À 10 ans, un grand tournant dans ma vie. Je pars pour un séjour de rééducation. 3 mois, je vais quitter ma famille, en Haute-Savoie, au village de l'Espérance. À l'époque, je vous dis juste une anecdote, j'ai rencontré le médecin. Il m'a dit, écoute ma fille, il faut que tu sois soignée d'une manière particulière. Donc c'était à Strasbourg. Et il me dit, soit je t'hospitalise une semaine. On peut juste remonter un tout. Soit je t'hospitalise une semaine, ou alors tu pars 3 mois en Haute-Savoie. Moi j'ai choisi 3 mois en Haute-Savoie. Et alors ma maman elle me dit, 3 mois en Haute-Savoie, ma petite fille 10 ans et tout. Et alors un jour, elle me dit, j'ai dit, 3 mois en Haute-Savoie. Je voulais absolument aller en Haute-Savoie. 10 ans, je ne savais pas ce qui m'attendait. Un grand tournant dans ma vie, je pars donc en Haute-Savoie. Et c'est la première fois que je quittais ma famille. Une petite Alsacienne qui parlait le français comme une langue étrangère. Parce qu'à l'époque, en Alsace, je ne sais pas si on parlait le patois, c'était notre langue. À l'école, on apprenait le français. Et moi, quand j'arrivais là-bas, les gens ne me comprenaient pas. Ils ne savaient même pas ce que je parlais. Et du coup, j'étais complètement perdue. Je me trouvais loin des repères. Il y avait 60 enfants qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils avaient tous 14-15 ans. Moi, j'étais la plus petite, 10 ans. Il y avait des sœurs catholiques. Moi, j'étais dans une église protestante. Donc, vous imaginez, quel choc de culture. Moi, complètement perdue. Les premiers jours ont été très difficiles. Ils avaient tellement de mal à me comprendre. Et en plus, eux, ils parlaient trop vite le français. Je ne comprenais rien du tout. Mais petit à petit, je me suis habituée. J'ai réussi à m'intégrer, à me faire accepter. J'étais la puce, forcément. Je n'étais pas grande. Et je découvrais un nouveau monde. Mon grand bonheur, c'est qu'on m'a autorisée à participer à la chorale de la communauté. J'aimais tellement chanter, j'aimais Jésus parce que j'allais à l'église, et donc pour moi ça ne posait aucun problème. Je me suis levée, je faisais comme tout le monde, comme dans mon village, je faisais comme les autres enfants, sauf qu'avec les catholiques on n'a pas le droit. Je me levais pour aller prendre la Sainte Seine, l'Eucharistie, oh quel péché. La sœur, la grande sœur, la directrice, est venue me prendre dans le rang, elle m'a retirée de force, elle m'a dit « t'as pas le droit de faire ça ». Je ne comprenais rien du tout. Et elle m'a dit, bon, écoute, elle m'a convoqué, elle m'a expliqué l'Eucharistie, la confession, je ne comprenais rien. Et bien, par contre, elle m'a dit, tu as le droit d'assister. J'ai demandé à tes parents, tu peux continuer à chanter. Merci maman, merci papa, de votre grandeur, de votre ouverture d'esprit, parce qu'à l'époque, c'était très important. En septembre, je suis retournée à l'école, et du coup, j'étais très en avance en français, puisque les autres, ils parlaient alsacien. Et moi qui étais en immersion pendant 3 mois, vous imaginez, j'étais douée. Je n'imaginais pas une autre vie. Je n'éprouvais rien. J'étais heureuse, tout allait bien. J'allais à l'église, j'étais fidèle au culte, assise à côté de mon grand-père. Et les années passent. Tous les ans, en été, je pars au village de l'Espérance pendant 3 mois et après, je vais à l'école, c'est très bien. À 14 ans, je prépare avec sérieux ma confirmation. Et ça ne m'engageait rien. Et à la suite, je me suis engagée, une fois que j'avais fait la confirmation, comme monitrice à l'école du dimanche et je restais fidèle au groupe des jeunes. Là, je vous montre les photos quand j'étais au village de l'Espérance. Donc là, c'est mes camarades de classe. J'avais 3 ans, en 3e. Ça, c'était tout un groupe de camarades à l'Espérance. Ça, c'était une monitrice aussi. C'est toujours le gros. Ah, c'est bon. Par contre, je me posais beaucoup de questions à sujet de Dieu. Les différences entre les religions protestantes catholiques, les incohérences entre ce que l'on dit, ce que l'on vit tous les jours. Et là, je commençais à me poser la question. Et moi, pourquoi je suis différente des autres? Pourquoi je suis handicapée? Comment sera ma vie future? Dans mon village, j'ai rencontré une jeune femme qui travaillait pour la mission et France pour Christ. Elle nous accueillait chez elle, 2 amis et moi. Elle consacrait beaucoup de temps à nous écouter, à lire la Bible avec nous et à nous encourager à la lire. Mes 2 amis ont accepté Jésus dans leur cœur. Elles se sont converties lors d'un camp de jeunesse et m'ont témoigné de leur rencontre avec Jésus. Elles étaient transformées, heureuses. J'ai compris que c'était plus que simplement croire en Dieu. Moi aussi, je voulais vivre ça. Mais je disais tout le temps, mais je ne suis pas prête. Il faut que je m'améliore encore un peu. Il faut que je fasse des efforts pour être digne de Dieu. J'ai donc cherché une relation plus profonde avec Dieu. Je faisais beaucoup d'efforts pour arriver à être à la hauteur, pour plaire à Dieu en étant meilleur et mériter son amour. Petit à petit, j'ai compris que Jésus était mort pour moi, pour mes péchés, et qu'il voulait pour moi une autre vie que celui que je vivais jusqu'à présent. Je n'avais pas besoin d'être prête, simplement accepter de dépendre entièrement de lui, de déposer tout à ses pieds, de lui demander pardon et de l'accueillir comme sauveur et seigneur dans ma vie. Ce que j'ai fait lors d'un camp de jeunesse dans les Vosges, le 31 décembre 1974, j'avais 14 ans. J'ai fait cette merveilleuse expérience d'être graciée, libérée du poids des péchés et j'ai pu commencer une nouvelle année avec Jésus à mes côtés. Voilà, je ne savais pas ce que cette année allait me réserver. J'étais pleine d'espoir. Au retour, donc en janvier, ma rue reprend sa vie ordinaire, le collège, ma famille, les activités dans l'église. J'étais toujours aussi insouciante. Je profite de chaque instant de liberté pour fréquenter par contre d'autres chrétiens. Et c'est là que j'apprends plus de Dieu. Je rencontre des gens engagés autrement que dans l'église officielle protestante. Et je partage la communion fraternelle. J'étais heureuse de témoigner de ma conversion. Je m'épanouis énormément, mais je suis toujours un peu réservée. Je repars pour le village de l'Espérance fin mai, au mois de juillet, 7 mois après ma conversion, maman décède. Et avec du recul, je pense que Dieu m'avait préparé à cela. Là, tout s'arrête. Je perds maman. J'ai 15 ans. Je suis en Haute-Savoie, village de l'Espérance, depuis un mois et demi, loin de ma famille. Et je me questionne. Pourquoi? Pourquoi encore ça? Mon handicap, je le gérais, je vivais. Mais maman, pourquoi? Le pasteur, le jour de l'enterrement, a prononcé des paroles devant le cercueil qui m'ont marqué. C'est un peu des paroles que souvent on dit. Il paraphrase un verset. Aujourd'hui, vous me posez plein de questions. Pourquoi cette mort? Une personne si jeune, maman avait 37 ans. Pourquoi une épouse? Une maman de 4 enfants, dont le plus jeune avait 10 ans. Dieu sait, et un jour vous comprendrez. le révélera. C'est comme qu'on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je ne voulais pas l'entendre. Ce qu'il racontait là, ça ne m'a pas plu du tout. J'étais en colère et je l'ai refusé. Un mois après, je retourne en Haute-Savoie. En fait, ça a été organisé comme ça. J'ai rien demandé, mais je crois que j'ai été mise à l'écart. C'est comme si après j'étais préservée. Et donc, je passe toute une année scolaire et je fais mon brevet. Donc, le brevet des collèges. Et durant toute cette année, passée loin de ma famille, j'ai été mise à part. Un peu consciente de la réalité. C'est vrai que quand je pensais à maman, je pleurais, je me dis, elle n'est plus là. Mais je n'avais pas vraiment réalisé qu'elle n'était pas là, puisque je ne vivais plus avec elle. Mon père et mes frères, ils avaient appris à vivre sans présence féminine à la maison, si ce n'est deux tantes qui venaient s'occuper du linge et du ménage. Eux, ils s'étaient organisés, ils avaient leurs habitudes. À la fin de l'année scolaire, je reviens chez moi à la maison. Et alors là, autre défi. C'était les vacances scolaires. Mes tantes se sont dit, ah bah Christine est de retour, on va pouvoir se décharger un peu sur elle. À mon tour que je vais m'occuper de la maison, de faire à manger pour mon père, mes frères, bref, prendre la relève de mes tantes. Ça se faisait comme ça. Mais tout devient compliqué. Vous imaginez une famille de 4 hommes dans une ferme et tout d'un coup arrive une fille. Alors là, c'était le bazar. Il y avait énormément de tensions. Mon père, mes frères, ça criait tout le temps. Je dérangeais, je leur disais de laver. On venait de laver le sol, ils rentraient avec les chaussures. Alors je les disputais, alors ils n'étaient pas contents. Bref, c'était terrible. Pour moi, c'était l'horreur. Avant, il y avait maman, et elle, c'est elle qui gérait tout ça. Alors maintenant, j'étais toute seule et je n'avais pas l'habitude. Au village de l'Espérance, quand j'étais pas bien, il y avait les monitrices qui m'aidaient. Mes amis qu'on a vus tout à l'heure, et maintenant plus personne n'est là. Je dois m'occuper toute seule des affaires de mon père, de mes frères. Je n'ai pas l'habitude et eux non plus. Et c'était le soucre. Pour le repas de papa, je devais organiser le repas. Et quand il rentrait du travail à midi, il fallait que tout soit prêt. Donc c'est moi qui décidais des repas. Mais je n'avais pas de livre de recettes. J'en ai trouvé un de ma grand-mère qui était en allemand. J'avais à côté un dictionnaire, je traduisais la recette. Et le matin, je téléphonais à ma grand-mère en lui disant à quelle heure je dois commencer le repas pour qu'il soit prêt pour midi. Enfin, vous imaginez le truc. Alors, la cuisson, le truc. Donc, je découvrais en même temps tout ça. Mes frères, ils m'énervaient. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et un jour, alors, ils n'étaient jamais d'accord avec ce que j'ai à manger, forcément. Et alors, un jour, je me souviens que, d'ailleurs, maintenant, ça fait le tour de la famille, j'ai fait des crêpes. Donc, j'ai préparé la table, la crêpe et tout et tout. Et j'ai fait toute une poêlée de crêpes, un plat de crêpes, pour que quand mon papa rentre, puisse tout de suite manger. J'ai mis le sucre, deux pots de confiture, j'ai mon frère qui vient, ouais, moi je veux pas cette confiture, moi je veux une autre. Et puis bref, la dispute commence. Il m'a tellement énervée, j'ai pris le pot de confiture et je l'ai lancé à travers la cuisine. Le pot de confiture a eraflé sa tête, lui a fait un truc, donc il a une entaille, il s'est écrasé au mur, j'ai fait une crise de nerfs. Le médecin a dû intervenir en urgence dans la famille, soigner mon frère, le recoudre, soigner mes nerfs à moi, me mettre sous calmant. Bref, c'était la catastrophe. J'avais qu'une envie, c'est de repartir dans un endroit où j'étais protégée, où j'étais plus... voilà. Mais là, non. J'étais là. Il fallait que j'assume et que j'aille de l'avant. Je me sens seule, chargée, diminuée. J'ai pas d'amis, j'ai pas le temps. Je dois m'occuper de toute ma famille. Les autres, ils allaient s'amuser, moi non. Et à ce moment-là, je commence à réaliser, plus que jamais, que je suis différente. Je suis handicapée. Et c'est à ce moment-là que je réalise vraiment que je suis handicapée. Et malgré tout, et surtout, je m'accroche à Dieu. Je garde le contact avec les groupes de jeunes. Eux, ils m'acceptent tel que je suis. J'assiste aux réunions, mais je ne participe pas. Je ne suis pas engagée. Je suis effacée. Je n'ai pas d'assurance. Et dans ces réunions, petit à petit, j'entends parler Dieu guérit. Et pour la première fois, je me suis dit, et pourquoi pas il me guérirait moi ? Moi aussi je pourrais. Moi aussi je pourrais être guérie. Pourquoi il ne guérirait pas moi ? Et alors là, je me suis dit, c'est ça. Il faut absolument que Dieu me guérisse. Si Dieu me guérit, ça va tout changer. Et donc, je me mise tout là-dessus. Je vais à toutes les réunions. Je m'approche à toutes les prières pour être guérie. J'espère, je supplie, je crois que Dieu peut me guérir. Et rien ne se passe. Et alors, j'ai entendu parfois, tu n'as pas assez de foi. Il y a un verset qui dit dans Luc 17, le verset 6, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et vous obéirez. Et je me suis dit, tu vois, tu n'as même pas la foi. Tu n'as même pas la foi parce que sinon tu serais guéri. Alors je me suis dit, ou alors, peut-être que je ne la mérite pas cette guérison. Et alors je me suis dit, comment faire ? J'étais vraiment, vraiment pas bien. Malgré toutes ces déceptions, je reste malgré tout attachée à Dieu, attachée aux chrétiens que je côtoie. Heureusement qu'ils étaient là. Ils m'acceptent. Heureusement. Sinon, je serais bien seule. Je vais toujours à la prière et toujours rien. Les années passent, les hauts et les bas. Les hauts lorsque je suis en vacances, dans les camps chrétiens, les bas au quotidien de ma vie. Je poursuis mes études, puis une année de fac de droit en semaine, et le week-end, je m'occupe de mon père, de mes frères. Je ne suis pas épanouie, j'ai l'impression que Dieu m'a oubliée. Je suis timide, réservée, repliée sur moi-même. Je suis handicapée, pas jolie. J'ai rien qui puisse plaire à quelqu'un d'autre que ma famille. Il y a ma famille qui m'aime bien, mes amis chrétiens et les autres. Est-ce qu'un jour j'aurai un avenir ? Est-ce qu'un jour j'aurai du travail ? Est-ce que je pourrai me marier ? Personne ne voudra de moi. Jamais je pourrai avoir des enfants. Jamais j'aurai une vie heureuse. Moi, pour moi, c'était fini. Parce que je n'étais pas guérie. Et donc ma vie était terminée. Je broie du noir et voilà. Un jour, durant l'été de mes 20 ans, avant de rentrer chez moi, après l'école, je m'arrête dans un champ. Chaque fois que je passe à côté, je me rappelle. Et j'étais tellement pas bien, tellement fatiguée. Et je m'assieds dans les labours, dans les sillons du labour. Ça me faisait comme un petit banc. Comme je ne suis pas grande, moi ça le fait bien. Et là, je pleure. Je pleure sur mon sort, je me lamente. Mon papa était alcoolique. Parce que bon, vu au décès de maman, il a sombré. Le soir, je retourne chez moi, mon papa sera alcoolique. Je suis toute seule. Alors je me dis, mais c'est ça ma vie ? À 20 ans, est-ce que c'est comme ça que je vais rester ? Dieu ne me guérit pas. Et pourtant, je me présente à chaque prière. Et là, je crie à Dieu toute ma détresse. J'en ai marre, Dieu. Moi aussi, je veux être heureuse. J'en ai assez de souffrir. J'ai 20 ans. Là, c'est une photo où j'ai 18 ans. Là, c'est une photo où j'étais avec Jeunesse en Mission à Avignon. Donc, je suis assise au milieu avec des amis dans les camps chrétiens. Là, c'est l'heure de la louange dans un camp chrétien aussi. Je suis là sur le côté en rose. Derrière, vous voyez Patrick. À l'époque, on participe à des camps chrétiens. Là, c'est l'heure de mon baptême. C'est un peu plus tard. Et en fait, à 20 ans, au mois d'octobre, je trouve du travail. Je déménage à Saverne, dans un appartement. Je rencontre des jeunes filles chrétiennes qui habitent le même immeuble que moi. Quand j'ai loué l'appartement, je ne le savais pas. et les jeunes filles habitaient le même immeuble. Toutes les semaines, ensemble, on prie. Il y a la réunion de prière à Saint-Réunion. Et ensemble, de Saint-Verne à Saint-Réunion, on prend la voiture et toutes les trois, hop, on va à la réunion de prière. Notre petit groupe à Saint-Verne s'agrandit. Et petit à petit, je suis transformée. Je commence à avoir un peu plus confiance en moi. J'espère toujours la guérison, sans quoi ma vie ne serait belle. Hein. Mais il en est toujours autrement. Pourtant, petit à petit, je commence à m'accepter telle que je suis. À découvrir que les valeurs d'une personne, ce n'est pas que le physique. Que moi aussi, j'ai peut-être des choses à dire, que je peux être intéressante. Je commence à prendre de l'assurance. Et Dieu me parle au travers de sa parole. Et je m'approprie le verset. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'ai compris que ce texte, que même si j'étais faible, Dieu voulait me rendre puissante et il accomplirait sa puissance. Dieu peut m'utiliser malgré mes faiblesses, malgré mes manquements. Oh, quel soulagement! Du coup, j'ai un autre regard sur la vie. Je suis heureuse, je suis reconnaissante, je m'accepte telle que je suis. Je porte un autre regard sur moi. Franchement, c'est comme si j'ai perdu d'autres lunettes. Bon, c'est pas que les lunettes rouges. Hein. J'ai l'impression que j'ai changé. Et en fait, moi, je me trouve plus aussi différente. Et du coup, comme j'ai un autre regard sur moi, ben les autres, eux aussi, ils ne se rendent même plus compte, puisque je vis comme ça. Un jour, j'étais avec des collègues, et je me gare sur une place handicapée, et ma collègue me dit, hey, « Hé, mais t'as pas le droit, c'est réservé aux handicapés !» Mais je la regarde, je dis, « Mais je suis handicapée !» Elle me dit, « Ah ouais, c'est vrai, mais j'ai plus beau penser, elle l'avait carrément oublié. » Et parce que moi, je l'ai oublié, les autres l'ont oublié. Et à ce moment-là, quelques années, donc je trouve du travail. Et dans le cadre de mon travail, un jour, je rencontre Patrick. Voilà. Et je laisse à Patrick le soin de parler parce que moi, je vis avec un handicap. Lui vit avec une handicapée.
Alors, je vais juste faire un bref parcours sur ma vie. Alors, je suis né dans une famille. Je suis né dans une famille où en fait, mon père et ma mère, quand on était. Enfin, je crois que j'avais 2 ans quand mon père et ma mère ont rencontré le Seigneur. Il y avait dans notre chère Alsace beaucoup de réunions faites par, à l'époque, les Suisses. Et du coup, il y a eu pas mal un réveil dans notre région, qui a suscité pas mal de vocations et de mouvements qui sont nés à ce moment-là. Et nous, on est allés là-dedans, donc on a grandi là-dedans avec mes parents. Alors, tout n'était pas toujours rose, évidemment, hein, dans une famille. Rien n'est parfait, hein, sera parfait au ciel. Mais on a quand même vu, j'ai quand même vu la différence entre les voisins et enfin, l'entourage et nous. C'est quand même une certaine assurance, une harmonie au niveau de, je dirais, de la vie chrétienne menée. Et même si mon père, il allait, et ma mère allait nous emmener, nous les enfants, dans l'église protestante, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tellement d'églises évangéliques. Je crois qu'il n'y en avait même pas à l'époque. J'ai grandi là-dedans, jusqu'à, je me rappelle, quand on avait... J'avais 10 ans, on assistait à des réunions, c'était... Ça m'intriguait, ça me parlait, ça me touchait. Et les choses de Dieu m'interpellaient. Et puis je continuais à grandir. J'étais actif dans le groupe de jeunes de la paroisse à Durstel, là où j'habitais. Jusqu'à mes 17 ans, où je continuais à animer aussi, à participer au groupe de jeunes, à animer le groupe de jeunes. jusqu'à mes 17 ans, suite à une rencontre avec des jeunes, dans le cadre aussi, toujours de l'église protestante, une soirée témoignage où un jeune raconte en fait ma vie. Il raconte ma vie. Parce que bon, même si extérieurement il n'y avait peut-être pas de difficultés, mais il y avait quand même des problèmes. J'avais quand même certaines difficultés dans ma vie et des liens et des choses qui me tenaient. Ce qui fait que, ben, il parlait de ma vie. Et ça m'a bouleversé. La nuit même, je me suis tourné vers Dieu. La nuit même, dans le lit, je me rappelle, je me suis tourné vers Dieu. Et j'ai commencé à vivre une vie nouvelle. J'en ai parlé à mes parents, ils étaient contents, évidemment. Et j'ai changé, en fait, parce que ça n'allait plus dans l'église où j'étais avec le pasteur avec lequel on travaillait. Et je suis joint à un groupe de jeunes dans la ville où, enfin, dans le village où on habite aujourd'hui. Et ça a donné, pas à cause de moi, il y avait évidemment un tas de jeunes qui étaient là, et on grandissait ensemble dans la foi. 40 jeunes, jusqu'à 40 jeunes qui se rencontraient les samedis soirs pour prier, pour témoigner, pour être enseignés dans la parole de Dieu, enfin quelque chose de qui n'existait pas dans l'entourage. Il y avait vraiment une bénédiction là-dessus, et le pasteur de ce village nous laissait faire, et on grandissait ainsi dans la foi. Jusqu'à ce que, évidemment, les plus grands commencent à se marier, pour Jonathan Martin, entre autres, et on voyait qu'il fallait changer de situation, on ne pouvait pas rester un groupe de jeunes, parce qu'on n'était plus un groupe de jeunes, du coup on devenait des jeunes adultes, les uns après les autres se mariaient, et on sentait la nécessité qu'il fallait se joindre à une église, et naissait, en 75, une église, enfin pas une église, un mouvement, un petit groupe à Sa Réunion, sous Hubert Lutz. Et cette cellule qui était une cellule vraiment de base à l'époque, une cellule de prière, a tellement grandi qu'on s'est retrouvé dans un environnement tout, enfin plein de gens. Et ça grandissait pour donner à un moment donné naissance à une église. Moi, à l'époque, j'étais parti en Afrique pendant 2 ans pour faire mon service civil. Et ben, quand je suis revenu, la première chose quand on cherche du travail, où est-ce qu'on va ? Ben, à l'époque, c'était la NPE. Et je viens à la NPE, première personne que je rencontre, mademoiselle. Ben, je ne savais pas qu'elle allait devenir ma femme, hein, mais bon. Mais je la rencontre, elle m'envoie gentiment vers le panneau d'affichage. Je regarde le panneau d'affichage, je trouve un boulot, tout de suite après je travaille. Et évidemment, le travail était à Saverne, donc je m'installe à Saverne. Et comme je retourne évidemment dans mon église, donc je vais de Saverne à Sa Réunion dans la semaine où il y a les réunions et le week-end, et ben, écoutez, qui est-ce que je rencontre pas ? Ben, toutes les filles qui étaient de Saverne, comme a dit Christine, qui se réunissaient et qui allaient. Alors évidemment, après, on a dit ben, on pourrait faire du covoiturage à l'époque, hein, on a dit on va aller ensemble. Donc parfois, moi j'allais en bus, ou elle avait le permis, moi j'avais pas encore le permis. Hein. J'avais pas encore le permis. Et donc elle m'emmenait, et puis on allait. Alors en m'emmenant à Sa Réunion et en revenant, ça fait quand même une bonne, plus qu'une demi-heure de voyage. J'avais de quoi parler, de quoi discuter, de quoi partager. Mais bon, il n'y avait rien. On partageait. Hein. J'étais ami. Et puis, un jour, elle m'invite.
Bon, entre autres, pas toi.
Non, tu m'invitais, mais bon, les autres toi. Aussi, mais moi, je ne voyais pas les autres.
Mais je n'ai pas invité que toi.
Mais je sais que tu n'as pas invité que moi. Mais elle m'a invité avec les autres, avec ses amis, elle m'a invité à manger des bonnes choses et tout. C'est sympathique. Et dans ce moment-là, on a aussi, il y avait un frère qui était là. Et on passait vraiment de superbes moments ensemble, on grandissait, je grandissais dans la foi, ça c'était vraiment des moments extraordinaires à l'époque dans ma vie,
ouais.
Où je grandissais.
Ils nous envoyaient, on voulait évangéliser, les deux garçons, ils disaient, oui nous on reste priés, allez porter les petits flyers sur les routes, voilà, c'est ça notre première rencontre.
C'était notre première rencontre, oui. On n'était pas tellement courageux, mais on grandissait quand même dans la foi, parce qu'on était ensemble, on priait, on était enseignés et on combattait dans la prière. C'est vrai qu'on n'avait pas encore trop le courage à l'époque d'aller dans la rue. Elle était plus témoignage et invité et ainsi de suite. Et évidemment, on se retrouvait assis ensemble. Puis, alors, comme on venait ensemble, on restait ensemble, puis on partageait. Et jusqu'au moment où, et bien, ça commençait évidemment à mûrir des choses. Hein, quoi. Évidemment, vous la voyez, hein, elle est jolie. Hein.
Enfin, moi, je ne me trouvais pas aussi jolie.
Hein. Elle est jolie. Hein. Et moi, je ne voyais pas le handicap, en fait.
Alors, et moi, je m'imaginais même pas ce que
j'étais. Est-ce que j'étais aveuglé ou pas? Mais je ne voyais pas. Je savais qu'elle avait un handicap, mais je ne le voyais pas. Je ne voyais pas le handicap. Et parce qu'en fait, même si elle avait un handicap, ça ne l'empêchait pas de vivre, d'être joyeuse, d'être heureuse. Ça avait changé hein, entre sa jeunesse et elle était épanouie, extravertie. Moi, j'étais plutôt introvertie. Voilà, enfin, on arrivait quand même à causer, à partager, à avoir des moments d'échange ensemble. Et puis, bon, naissait en nous, enfin en moi.
Moi, j'espérais même pas.
Je ne les espérais pas trop. Mais naissaient des sentiments que je n'exprimais pas, étant donné que j'étais quand même assez, comme j'ai dit, introverti. Et de toute façon, je ne savais pas m'y prendre. J'avais une fille que j'avais en vue à un moment donné qui a dit non. Et puis du coup, moi, je ne savais plus. Donc, je ne savais pas trop. Mais bon, le Seigneur, il a bien fait les choses. Et le Seigneur, il fait très bien les choses. Quand on est fidèle au Seigneur, le Seigneur, il conduit les choses. Il ne faut jamais précipiter les choses. Non, moi, je ne voulais pas précipiter. Le Seigneur, il a fait les choses et on s'est. Il y avait un moment donné au ballon, dans une colonie, où enfin, on s'est regroupé pendant un week-end prolongé avec Pierre Van Burden. Et le thème était comment savoir si on est fait l'un pour l'autre. Comment voir si, en fait, on avait.
Dans nos relations
avec filles, garçons. On pouvait être, comment ça pouvait faire en sorte que ça pouvait être bon, ça pouvait être vrai, ça pouvait être profond, et pas juste quelques sentiments qui s'enlèvent, qui passent comme ça. Et puis, commence à parler, et puis on se regarde.
Et c'était les feux rouges et les feux verts, tu te souviens ?
Non, je ne me rappelais plus tout, mais...
Mais moi, je me souviens, il y avait des feux rouges et des feux verts.
Oui.
Et il y avait beaucoup de feux verts.
Il y a beaucoup de feux verts. Et puis c'est dit, quand je méditais sur ces choses-là le soir, quand même pas mal de feux verts. Hein. Et alors évidemment, je me suis dit, ben, si le Seigneur il a mis tellement les choses en place, si le Seigneur il a tellement conduit les choses. Et ben, le Seigneur a fait grandir l'amour en nous, en tout cas en moi. Et puis pendant ce camp, j'ai fait quelque chose qui a bouleversé quelque part ma femme. C'est-à-dire pendant que... Oui, vas-y.
En fait, comme vous savez, je voulais toujours faire comme tout le monde. Et donc un jour, on est parti en promenade. Et c'est les Vosges. Donc les Vosges... Ça grimpe. Hein. Et comme vous savez que je voulais faire comme tout le monde, mais j'étais quand même handicapée. Et parfois, j'avais besoin d'aide. Et ce jour-là, Patrick m'a proposé son aide, comme les autres fois. Sauf qu'arrivé au bout de la montagne, quand j'avais plus besoin d'aide, il a gardé ma main. Et du coup, j'ai compris, parce que voilà, je n'osais même pas rêver, je n'osais même pas imaginer. Qu'un jour, je rencontrais, surtout que c'était un homme qui était très courtisé, hein. Dans le groupe des jeunes, il y avait beaucoup de filles, hein. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, jamais, je pourrais espérer un mari comme lui, quoi. Il y a d'autres qui étaient bien plus à même de le combler.
Et évidemment, ce jour-là, a commencé plus qu'une amitié, a commencé quelque chose encore de plus profond, des échanges de plus en plus profonds. On s'est posé des questions, on a réfléchi, on a prié, et on a laissé, on a toujours rien précipité, hein, on a toujours laissé faire le Seigneur. S'est posé quelques mois plus tard, en février, si je ne me trompe pas, la question si elle devait se faire opérer. Donc, on était à Berck.
Oui, alors
enfin, elle était à Berck.
Alors, c'est pareil. Donc, à un moment donné, donc vous voyez que j'étais handicapée et que pendant tout un temps, c'est pour ça aussi que j'ai des petits moments privilégiés ici, dans le Nord. C'est qu'en fait, mon médecin, à l'âge de 10 ans, quand j'étais au village de l'Espérance, le médecin qui s'occupait de nous à l'époque, c'était le docteur Cottrell, qui était donc... très très longtemps, de longues années, à l'Institut Callot à Berck-sur-Mer. Et donc c'était mon médecin, mon médecin rééducateur. Et du coup j'allais toujours voir, c'est lui qui gérait tout mon problème, tout mon handicap. Et régulièrement je venais à Berck pour des contrôles. Et c'est ainsi qu'un jour, ils ont décidé que peut-être que ce serait bien de m'opérer. Et donc, après un contrôle, on met tout en œuvre pour que je sois opérée. Donc, je quitte mon travail, je donne ma voiture, je laisse mon appartement et je pars pour une hospitalisation de longue durée à Berck-sur-Mer. Et en fait, à l'époque, on était déjà engagés l'un envers l'autre et donc on a décidé ensemble que j'allais tenter ce pas, d'aller me faire opérer. Et donc, je pars à Berck. Et au bout d'un mois, ils se sont rendus compte que non seulement j'avais une grosse déformation de la colonne vertébrale, mais que de plus, j'avais un grand problème au niveau de la moelle épinière. Et que si jamais ils m'opéraient, le risque était très très élevé que cette moelle épinière se brise et que je sois paralysée. Donc la question se pose, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me fais opérer ? Est-ce que je ne le fais pas ? Est-ce que je cours le risque ? Est-ce que je ne le cours pas ? Et du coup, voilà, ma question se posait. Du coup, j'étais plus toute seule à vouloir décider. Donc, avec Patrick et le médecin, on a décidé que non, je ne me ferai pas opérer. Je garderai, s'il faut, je resterai handicapée, je resterai comme ça. Et j'espérais toujours peut-être un jour une guérison. Mais on était parti pour vivre comme ça. Et donc
elle était à Berck et il fallait la chercher et je me suis proposé d'aller la chercher pour la ramener à la maison. Et j'étais très très malade ce jour-là. En fait, j'avais 40 de fièvre. Alors je me suis dopé avec des médicaments. Ma mère ne voulait pas me laisser partir, mais je suis quand même parti. Et j'ai dû m'arrêter en cours de route parce que je ne pouvais plus. Et puis je suis quand même arrivé sain et sauf à Berck et j'ai emmené ma future, donc ma fiancée, je l'ai emmenée avec moi et on est retourné chez nous. Je savais, alors le médecin avait quand même dit que le risque était grand, c'est-à-dire il y avait quand même risque de paralysie et ce risque on ne voulait pas le prendre parce que on ne savait pas où on allait. De toute façon, je ne savais pas si j'avais le courage à ce moment-là de m'occuper d'une fille et de marier une fille carrément paralysée. Hein. Je préférais avoir une fille entière. Hein. Et donc, on a décidé ensemble, on avait remis ça entre les mains du Seigneur, on a décidé ensemble qu'elle ne se ferait pas opérer. Et du coup, on est rentré, puis est arrivé ce qui est arrivé. On s'est marié.
Alors, en fait. Le parcours du mariage, c'était pas facile. Oui, on a juste, on s'est marié. Mais avant de se marier, on a dû faire face à une très grande, ça c'était notre photo de jeune marié. On a un Renault,
non ?
Non. Avant ? C'est l'avant ? T'en avais pas une avant ?
Oui, c'est là.
Ouais, c'est celle-là. Et donc, avant de se marier, en fait, on a aussi une grosse épreuve, en fait, c'est que notre famille n'était pas d'accord. Surtout la famille de Patrick. Sa maman. Alors aujourd'hui, on peut en parler parce que la dernière fois que j'ai rendu mon témoignage, Je n'ai pas pu le dire parce que mon beau-père fréquente notre assemblée. Et pour ne pas le mettre en porte-à-faux, on n'en a pas parlé. Mais 15 jours après notre témoignage, que Régine a entendu, mon beau-père s'est levé dans l'église et a raconté cette histoire en disant qu'effectivement, ils étaient contre notre mariage. Ils ne voulaient pas que leur fils épouse une femme handicapée. Et il a reconnu qu'avec son épouse, ils ont lutté. Ils ont dit à leur fils que ben non, ils ne voulaient pas. Patrick a gardé le cap, il a dit si, je vais l'épouser. Et donc lui et sa femme, ils ont dû se résigner à ça. Et quelque part, ce qu'il avait dit ce soir-là, donc l'année dernière, m'a tellement touchée. Et il m'a dit que Dieu ne pouvait pas leur faire un plus beau cadeau, leur avait pas fait un plus beau cadeau que moi, comme épouse pour leur fils. Je crois que c'est quelque chose de... J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau qu'un beau-père dise ça de sa belle-fille. Pour moi, c'était grand. Et qu'il l'ait dit devant toute l'église, ça m'a beaucoup touchée. Donc, je peux vous le dire en avant-première ce soir. J'ai pas pu le donner l'année dernière, mais c'est quelqu'un de formidable, mon beau-père.
Oui, il faut dire que quand j'avais dit à ma mère en particulier que j'allais épouser Christine, qu'elle allait être ma fiancée, je crois qu'on s'est fiancés juste après, je crois à Pâques, et elle n'était pas du tout chaude pour cette relation. Même aller pleurer pour vous dire tellement elle m'a quelque part blessé. Et bon, j'ai accepté, mais bon, elle n'a pas forcément accepté tout de suite. Bon, après, elle s'est résignée parce que, bon, quand j'ai tenu ferme, parce que j'avais vu, il y avait les feux qui étaient au vert, et j'allais pas me laisser dérouter, changer de voie parce que ma mère n'était pas d'accord. Le Seigneur avait tracé la route. Il avait montré que je pouvais avoir confiance en lui, et même si moi, à la rigueur, je ne voyais pas l'handicap, d'accord, ou si je voulais l'ignorer, de toute façon, le Seigneur était fidèle, et moi, j'avais, de toute façon, moi, je basais ma vie sur la foi en Dieu. Et quand on a foi en Dieu, quand on croit que Dieu est capable de nous guider, alors tout ne sera pas facile, on sait que tout ne sera pas facile, mais... quand on s'appuie sur le Seigneur, on sait qu'on est dirigé, on est conduit, et que le Seigneur, il nous soutient. Quand on est porté dans l'épreuve, le Seigneur nous soutient. Et donc, j'ai tenu ferme, et on s'est mariés, le 1er septembre.
Voilà. Et depuis notre mariage, nous avons vécu des miracles. Nous avons eu 3 enfants, 3 miracles. Jamais de ma vie, je n'aurais osé imaginer qu'on aurait des enfants.
Ouais, alors. Moi, j'étais d'une famille de 3 enfants.
Alors,
quand on a parlé d'enfants, j'ai dit à mon épouse, j'en aimerais 3.
Tu dis, tu rêves, si on en a un, et encore, je ne suis même pas sûre. Hein. Oui. J'imaginais même pas que je puisse avoir des enfants. Et quand on s'est mariés, on a quand même demandé hein, au gynécologue, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un jour un enfant? Il a dit, écoutez, madame, je ne vais pas me prononcer. On m'a demandé l'avis de spécialistes. Il m'a envoyé voir des spécialistes. Et ma plus grande crainte, c'est que j'ai une grosse déformation de colonne vertébrale et du coup, je ne respire pas bien. Et j'ai une très, très petite capacité respiratoire. Et la plus grande crainte, c'est que si on est enceinte, bah, le ventre, il appuie et puis la respiration, Et en fait, le médecin qui m'a vu, c'était un professeur, il m'a dit, écoutez, madame, le désir d'enfant, c'est quelque chose de très fort. On ne peut pas aller contre. Si vous voulez un bébé, on va vous accompagner pour en avoir un. Il dit, mais il faudra faire des efforts, des sacrifices. Je dis, vous savez, docteur, je ferai des efforts, je ferai des sacrifices. Et je comptais sur l'âme de Dieu. En fait, j'étais prête à rester couchée toute ma grossesse. Je ne suis pas restée couchée. Je n'ai jamais besoin d'être couchée. J'ai pu mener à terme mon travail. J'ai mon congé de maternité comme tout un chacun. J'ai accouché par césarienne et on a eu notre premier petit miracle. Mmh. Après, on a eu une deuxième, une fille, une troisième, une Laureline. Oui. Entre-temps, on a eu des merveilleux enfants. On a eu une famille de Dieu, l'Église. Donc ça, c'était votre fils, Jérémy. Ça, c'était avec sa petite sœur, Marie-Julie. Ça, c'est Marie-Julie. Ça, c'est notre famille au complet, avec la naissance de la dernière, Laureline, qui était elle aussi un petit miracle tout petit. Ça, c'est nos trois enfants, de nouveau. Ça, c'est Laureline, lorsqu'elle a un an. Elle était née toute petite. Combien elle avait ?
1,7 kg.
Et elle était pas plus grande que la main de mon mari. Et on pensait que c'était une grossesse assez compliquée. Et voilà, Laureline, un an. Là, c'est Laureline. Elle devait avoir 2-3 ans. Ça, c'est aussi la famille. Ça, c'est aussi nos trois enfants. Voilà, une petite photo de famille. Encore une photo de famille. Ça, c'est papa et sa fille, Marie-Julie. Ça, c'est mes filles. J'ai envie de faire juste là. Mes deux grandes filles, Marie-Julie et Laureline. Donc, vous voyez, Laureline, la petite puce, c'est elle-là, en vert. Le Seigneur nous a bénis. Nous a donné une belle famille, de beaux enfants, une famille de Dieu. On va voir la suite. Tu veux montrer le reste ?
Oui. Merci.
Voilà, nous deux.
Alors, ça ne nous a pas empêché d'aller en
de voyager. On a taillé en Thaïlande, oui. Ça, c'est à Berck-sur-Mer, tout à côté d'ici, en Thaïlande. Le mariage de notre fils Jérémy avec sa femme Johanna. Donc, on a une belle fille qui s'appelle Johanna. Et voilà le mariage de Jérémy. Là, c'est toute notre famille réunie. Marie-Julie avec nos deux petites filles, Justine et Solène. Jérémy, sa femme Johanna, au baptême de Laureline. Notre dernière. Notre petite fille avec notre dernière, Justine et Solène, nos deux petites chéries. Ça, c'est aussi notre famille au complet. C'est rajouté Mario. Là, il était fiancé à Marie-Julie. Elle a attrapé ce jour-là le bouquet de la mariée. Et voilà, l'année suivante, la voilà en mariée. Justine et Solène, notre petite fille. Toujours avec elle. Notre petite fille encore. Voilà, avec papy et mamie, notre petite fille. C'est bon. Dieu nous a aussi donné, donc une famille de Dieu, nous a aussi donné une famille d'adoption. La famille d'adoption, la famille de cœur, des petits-enfants de cœur sont présents ce soir. C'est grâce à vous, vous nous les avez prêtés. C'est Jonathan, Abiba et les enfants. C'est nos petits-enfants de cœur. Ils sont là aussi, tu les as des photos ? Je la montre juste à la vidéo, juste les deux photos.
Chacun, oui.
Tu les as pas mis dessus ? Mais si.
Ah, ils sont plus là, alors je ne sais pas mis.
Oh mince. On avait des photos. Tu les as pas mis ? Bon, c'est pas grave. On avait trouvé les photos avec les enfants. Ok, c'est pas grave. Alors voilà, aujourd'hui je réalise que Dieu m'a guérie. J'ai été guérie. Et vous savez quoi ? J'ai été guérie, mais pas comme j'imaginais. Je suis guérie parce que j'ai accepté la non-guérison. Je ne sais pas si un jour Dieu me guérira, il a ce pouvoir-là. Mais j'accepte de ne pas être guérie. Je vis par la grâce de Dieu et j'accepte tout ce qui est arrivé par après. Ça fait maintenant 3 ans que ma maladie s'aggravait. Ça a rajouté une autre maladie qui est assez rare. J'ai besoin de l'oxygène 24 heures sur 24. J'ai plus le droit de me promener, même si on m'aide. Maintenant, on m'aide en poussant mon fauteuil, en m'aidant à déplacer, à monter sur les petites corniches. Mais je crois que... J'accepte que Dieu ne me guérira pas et je suis heureuse. J'ai accepté de vivre avec mon handicap. Je suis heureuse de ma vie. Mon dépend ne dépend pas de mon physique ni de ma santé. Mais mon bonheur dépend de la relation avec Dieu et avec les autres. Dieu, il a répondu à ma prière bien au-delà de mes espérances et de mes attentes. C'est vrai que, humainement parlant, on ne peut pas le comprendre. Mais lorsque je considère ma vie, je ne peux que lui être reconnaissant. Sans tout ce parcours de vie, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Et je peux dire que j'ai appris par les choses que j'ai souffertes. J'ai appris à vivre dans le contentement, à ne pas me soucier du lendemain, car je sais que Dieu prendra soin de moi. L'Éternel connaît ton départ et ton arrivée. Vous pensiez que vous étiez mal né? Vous pensez, certains autour de vous sont venus sur cette terre avec bon nombre d'avantages. Ils ont des parents formidables, un physique flatteur, des noms illimités, une merveilleuse santé, plein d'argent, même des fois un livre bancaire en guise de des cadeaux de naissance. Et vous, vous êtes là avec vos manquements et vos faiblesses. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de cela? Qu'allez-vous en faire? Est-ce qu'on va se plaindre toute notre vie en regrettant de ne pas être né comme telle personne ou telle personne? Ou est-ce qu'on va aller de l'avant avec Jésus à mes côtés? Moi, j'ai choisi ça. J'ai mis longtemps à le comprendre. Mais jour après jour, je choisis d'aller de l'avant avec Jésus à mes côtés. Je pleure. Avant-hier, j'étais à Berck. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'avais un rendez-vous avec mon médecin. Et je lui dis, écoutez, mon docteur, quelles sont les perspectives d'avenir pour moi? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que mon état s'améliore ou au moins se stabilise? Il s'est tu. Il y avait un long silence. Son regard en disait non. J'ai dit, mais je peux faire quelque chose? Il a dit non. Et sur le coup, il faut accepter. J'ai dit, Seigneur. Il me dit, oh, vous savez, vous pouvez faire de la rééducation pour garder, etc., etc. Non, je vais de l'avant, avec Jésus à mes côtés. Je veux proclamer cela. Et même si les circonstances autour de moi disent le contraire, aujourd'hui encore, parfois je soupire auprès de Dieu. Je pleure auprès d'une nouvelle épreuve. Je suis découragée, encore et encore. Mais je ne veux pas croire que Dieu me abandonne. Et je crois que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce verset-là, quand je me suis convertie, tout de suite après, mon grand-père m'a offert une Bible. Il m'a donné de l'argent pour me payer une Bible et j'ai noté ce verset. Je ne savais pas qu'il avait autant d'impact dans ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. C'est ce que je crois aujourd'hui. Et je voudrais juste vous lire un petit poème avant de conclure, qui s'appelle « Le chemin du bonheur ». Le bonheur, ce n'est pas un but à atteindre, mais c'est un chemin parsemé d'imprévus à perdre. Le bonheur, ce n'est pas un souhait comblé, mais c'est d'être comblé par ce que l'on n'a pas souhaité. Le bonheur, ce n'est pas seulement d'être aimé, mais avant tout de savoir aimer. Le bonheur, ce n'est pas de posséder une fortune, mais c'est de savoir partager un peu de thune. Le bonheur, ce n'est pas l'absence de tempête, mais c'est de chanter au milieu de la tempête. Le bonheur, ce n'est pas d'être assis près d'un ruisseau, mais être l'eau qui coule au creux de ce ruisseau. Le bonheur, ce n'est pas un ciel sans nuages, mais c'est de voir le soleil à travers les nuages. Le bonheur, ce n'est pas un été sans fin, mais c'est aussi l'hiver, le froid et la faim. Le bonheur, ce n'est pas seulement de rire et de chanter, mais c'est aussi de faire rire et d'en chanter. Le bonheur, ce n'est pas simplement de devenir adulte, mais c'est garder un cœur d'enfant dans un corps d'adulte. Le bonheur, ce n'est pas de ne jamais pleurer, mais c'est d'avoir une épaule sur laquelle pleurer. Le bonheur, ce n'est pas ce qui nous a fui, mais c'est tout ce que nous avons cueilli. Le bonheur, ce n'est pas pour un incertain demain, mais c'est pour l'instant présent, celui qui est dans nos mains. Le bonheur, ce n'est pas courir après ce qu'on n'a pas, mais c'est se satisfaire de tout ce qu'on a. Le bonheur, le chemin du bonheur, est merveilleux à suivre. Dans la crainte et de la peur, à jamais nous délivre. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais le bonheur, c'est simplement le chemin, celui où nous marchons la main dans la main. Que Dieu soit glorifié, que grâce soit rendue. Amen.